France Musique.
Il est là, il approche. Le baccalauréat, c'est dans un peu moins de 2 mois, du moins pour ce qui est des épreuves générales. Et pour ceux qui ont choisi l'option musique, l'échéance approche à grands pas, puisque les épreuves débutent dès le 15 mai. Si vous êtes enseignant ou élève en terminale, vous êtes branché sur la bonne fréquence. Nous allons vous aider à répondre aux questions que vous posez à ce sujet d'ici 9h. Et pour nous aider à y voir plus clair ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Susanna Kubik et Vincent Varnier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Saskia.
Bonjour.
Alors Susanna Kubik, vous travaillez au sein du pôle web de notre antenne de France Musique. Vous avez réalisé le dossier Bac Musique qui aide nos auditeurs et qui est disponible en ligne sur francemusique.fr. Et Vincent Varnier, vous êtes vous organiste titulaire de l'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris et professeur au lycée Racine à Paris, où vous préparez d'ailleurs les lycéens à l'option Bac Musique. Alors comment ça se passe? Comment s'y préparer? On va en parler d'ici 9h. Et vous, chers auditeurs, si vous avez des questions à poser sur le sujet, envoyez-les-nous via la page de l'émission La Matinale de France Musique sur francemusique.fr ou bien sur nos réseaux sociaux, si ça fonctionne aussi, Twitter avec SOS Bac Musique, hashtag SOS Bac Musique, ou sur la page Facebook de France Musique. On essaiera d'y répondre, enfin, du moins mes invités, Vincent Varnier, Susanna Kubik, d'ici la fin de cette émission. Pour vous laisser un petit peu de temps pour nous envoyer tout cela, on va fêter un anniversaire ce matin, 8h06. La soprano Nathalie Dessay, née le 19 avril 1965 à Lyon. On va l'entendre dans un air de l'opéra L'Acmé de Léo Delibes, L'Acmé faisant ses adieux au jeune officier anglais Gérald qui s'apprête à la quitter. Michel Plasson à la direction de l'orchestre du Capitole de Toulouse et Nathalie Dessay pour cet air de L'Acmé de Léo Delibes. Tu m'as donné le plus doux rêve, et c'est comme avec Xavier Lerper, n'y voyez aucun lien avec celui qui nous a rejoint en studio. Il est 8h09. Bonjour Antoine Becker, c'est très gentil. Hein. Vous nous parlez ce matin, Antoine, des centres culturels de rencontres, mais voilà, on y est, qui sont en développement en France comme à l'étranger. Quel est leur fonctionnement?
Lié patrimoine et création, hein, c'est là le principe des centres culturels de rencontres, les CCR, hein, comme on les surnomme, qui ont été créés en 1972. Les premiers lieux à avoir été labellisés ont été les Salines d'Arc-et-Senans, hein, ce chef-d'œuvre de Claude-Nicolas Ledoux, ou l'abbaye de Royaumont. À chaque fois, donc, des lieux d'histoire qui se mettent au service des arts et notamment de la musique. Et aujourd'hui, il y a près de 24 centres en France, de Noirlac Saint-Riquier. Le mouvement n'est pas linéaire. Certains centres, comme l'abbaye aux Dames de Sainte, ont quitté l'association puis l'ont réintégré ensuite. Un centre comme la Bourrie en Limousin a connu il y a 2 ans une liquidation judiciaire. Mais ce qu'on constate, au-delà de ces changements, c'est que le modèle même des centres culturels de rencontre est en nette évolution, avec une nouveauté un peu technocratique mais importante. Depuis la loi Création, Architecture et Patrimoine, c'est désormais l'État et non plus l'association des centres qui est propriétaire du label. L'un des derniers lieux à avoir été labellisé m'a aussi quelque peu intrigué. Il s'agit de la maison et des jardins de William Christie, le chef des arts florissants, à Thiriers, en Vendée. J'ai demandé hier à Isabelle Battioni, un délégué général de l'association des centres culturels de rencontre, comment une propriété privée pouvait devenir centre culturel et donc bénéficier d'une aide publique conséquente. Pour information, je le rappelle, le budget d'un CCR est généralement divisé pour moitié entre ressources propres et pour moitié par les subventions, État et collectivités. Isabelle Battioni a tenu à souligner que le projet de William Christie à Thiriers s'accompagne d'une création de fondation, qu'il y a au-delà des jardins des lieux pour les répétitions et l'hébergement des artistes, et que la labellisation de ce centre avait été prise après validation en commission par la ministre de la Culture elle-même. En tout cas, pour les arts florissants, cette implantation tombe au bon moment après la fin de leur résidence à Caen. Autre évolution importante, les CCR s'exportent de plus en plus. Il y a d'abord eu l'Europe, mais désormais, depuis quelques années, le réseau européen des centres de rencontre n'est en fait plus seulement européen. Il y a 2 centres en Chine, soutenus par l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger. Rien que ça. En l'occurrence, précision importante, ces centres ne reçoivent pas d'argent directement de l'État français, mais ils bénéficient bien sûr d'une marque qui, elle, est monétisable. Il y a aussi en projet un CCR au Bénin. On le voit, les centres culturels de rencontre n'ont donc pas fini de se développer, et c'est tant mieux, à l'association des CCR et aux tutelles de rester toutefois vigilants pour que les frontières entre investissement privé et argent public soient clairement définies et qu'à l'étranger, des enjeux de soft power ne viennent pas dénaturer le modèle. Car les CCR ont ceci de spécifique et d'unique qui lie patrimoine et création, je l'ai dit, deux domaines trop souvent opposés dans les politiques culturelles, avec, si on caricature, le patrimoine défendu par la droite et la création par la gauche. Ni de droite ni de gauche, les CCR sont donc très Macron-compatibles.
Merci beaucoup Antoine Pecker. On réécoute cette chronique sur francemusique.fr et on vous retrouve bien évidemment demain, Antoine.
À demain, bonne journée.
Bonne journée, il est 8h12.
Saskia Deville, la matinale, France Musique. Thank you.
Œuvre qui est au programme du Bac Musique cette année, la sonate pour flûte, alto et harpe de Claude Debussy, dont on écoutait à l'instant le final, troisième mouvement. Susanna Kubik, Vincent Varnier, si je veux me présenter au Bac Musique, qu'est-ce que je dois savoir?
C'est une Susanna option, Kubik. Saskia, en fait, elle permet aux élèves notamment de gagner quelques points sur la moyenne au Bac Général, donc en clair, c'est du bonus. Si vous ne réussissez pas votre option musique, la note ne viendra pas modifier votre note globale. Mais ceci est valable seulement pour l'option facultative au bac, parce qu'il y a bien deux options. L'option facultative ouverte aux musiciens et aux non-musiciens, et l'option lourde réservée, celle-là, aux élèves musiciens confirmés. L'option lourde est, comme son nom l'indique, une épreuve plus longue, plus exigeante.
On va dérouler, Susanna Kubik, je vous rassure, on va en parler avec Vincent Varnier aussi. Mais je voulais revenir vraiment à cette question. En quoi consiste, de manière peut-être plus générale, le bac musique? Ça s'adresse à qui? Il faut avoir quel âge? Est-ce que je peux encore m'inscrire maintenant? Est-ce que... on ne sait jamais.
On peut passer le bac à tous les âges. Hein. Mais effectivement... Bien sûr, on s'inscrit en début d'année en choisissant cette option, comme les autres options d'ailleurs qui sont disponibles. Il y a un long panel à la disposition des élèves. Alors l'option musique, il faut quand même être musicien. Alors, il y a vraiment tous les horizons pour l'option facultative. Hein, c'est vraiment toute
série.
Voilà,
il y a deux options.
Voilà, et la spécialité, ce qu'on appelle aussi l'option lourde, c'est réservé au bac L avec une spécialité musique. Mais le bac le plus connu, le plus fréquenté, c'est bien l'option facultative. Et c'est une épreuve orale. Une épreuve orale de 40 minutes où il faut que vous montriez finalement une double faculté, à la fois d'interprète, où on vous demande une production musicale, du répertoire ou de votre choix, et également de votre composition si vous le désirez. L'improvisation est aussi tolérée. Et également, bien sûr, une partie d'érudition, de culture musicale qui consiste à un oral autour d'œuvres qui sont au programme à étudier en classe, mais qui sont aussi mises en regard avec d'autres œuvres qu'il faut comparer.
Susanna Kubik, est-ce qu'il faut connaître la musique? Est-ce qu'il faut avoir fait du solfège? Est-ce qu'il faut avoir pratiqué un instrument depuis 15 ans pour passer le bac de musique?
Non, ça dépend de l'option qu'on choisit. Effectivement, pour l'option facultative, c'est une option qui est ouverte, comme le disait Vincent Varnier à l'instant. C'est une option qui est plutôt incitative et qui invite à s'ouvrir à la musique et à découvrir et à se montrer sa pratique musicale, notamment. Alors que l'option lourde, l'option de spécialité, spécialité, c'est quand même une option qui exige un bagage musical plus important et s'adresse aux élèves, notamment musiciens.
Il y a pour les deux options une partie écrite et une partie orale, c'est alors, ça Vincent Vanier ?
Alors pour l'option de spécialité, il y a effectivement un écrit et un oral. Pour l'option facultative, depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, ce n'est plus qu'à l'oral que les élèves sont évalués.
Et comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'il faut préparer ?
Alors vous avez par exemple cette année trois œuvres. C'est vraiment un travail autour des œuvres. Il n'y a pas de problématique ou de direction de travail. Voilà, il y a par exemple une œuvre de Mozart, le concerto pour la main gauche de Ravel, et puis les quatre opéras bouffes de Germaine Taillefer. Il faut les travailler, il faut les connaître.
Et ça veut dire quoi les travailler ?
Eh bien, il faut malgré tout aller à la rencontre de ces œuvres, c'est-à-dire en connaître l'écriture, en connaître l'esthétique. Connaître aussi le contexte général dans lequel ces œuvres ont été composées. Voilà, les aspects techniques aussi, historiques, esthétiques, comme je le disais. Et puis, avoir peut-être quelques réflexes de commentaires d'écoute, puisque c'est une épreuve orale où on prend une des œuvres tirées au sort parmi les trois que je viens de citer, et on la met en regard avec une autre œuvre inconnue, en quelque sorte. Et c'est donc
qui est découverte le jour de l'examen,
jour même, le jury
choisi par le jury.
Exactement. Alors, c'est un peu anxiogène, hein. C'est une épreuve pas facile, parce qu'il faut, en orientant au bout de trois écoutes maximum, d'un extrait de deux minutes, hein, trouver le fil rouge, trouver ce qui va faire que ces deux œuvres vont finalement se compléter et vont encore éclairer certaines capacités analytiques et aussi de sensibilité de notre candidat.
Et effectivement, ça peut être très stressant comme étape. Il faut quoi ? Se faire confiance ?
Alors surtout, il faut aussi se faire plaisir. La musique, c'est d'abord du plaisir. C'est ce que je passe mon temps à dire à mes élèves. Nous sommes des passionnés, on aime la musique. Et donc, il ne faut pas y voir une épreuve, une sanction ou quelque chose de trop technique. Au bac facultatif, on est surtout intéressé, bien sûr, par le contenu qui est censé être connu sur les œuvres, mais... Pour ce qui concerne l'écoute un petit peu mystère, l'écoute inconnue, comme on dit, on regarde les champs de perception de cet élève, sa sensibilité, et peu importe si le schéma formel de l'exposé n'est pas si parfait que ça. On n'est pas à la leçon de la grecque.
On va écouter quelques notes d'une des œuvres qui est au programme du Bac Musique cette année, le concerto en ré majeur pour la main gauche de Maurice Ravel. Thank you. Quelques notes du concerto en ré majeur pour la main gauche de Maurice Ravel qui figure au programme de l'option facultative du bac musique aux côtés d'autres œuvres. Le Divertimento que chanson 36 de Mozart et puis l'affaire Taillefer de Germaine Taillefer. Vincent Barnier.
Oui, alors c'est cette dernière question. L'affaire Taillefer, c'est en fait le titre d'un DVD. C'est une production de Limoges en 2014 dirigée par Christophe Rousset. Et ça comprend 4 opéras bouffes, des opéras minutes, hein, durée moyenne 20 minutes, dans les styles d'auteur. Hein, ça va vraiment de Rameau à Offenbach, à Gustave Charpentier, en passant par Rossini. Donc Taillefer fait œuvre de pastiche.
Voilà, alors donc première partie pour cette option facultative, c'est finalement la comparaison de ces œuvres figurant au programme de ce programme qui s'appelle le programme limitatif. On a une question d'auditeur, Vincent Varnier, Susanna Kubik. Quels sont vos conseils pour comparer les œuvres le mieux possible le jour de l'oral, Susanna Kubik?
Je vais peut-être laisser répondre Vincent Varnier. Il s'agit de trouver une grille de lecture finalement applicable sur les œuvres qu'on peut découvrir au cours de l'examen. On va peut-être chercher à comparer soit l'écriture formelle, soit les timbres, soit l'esthétique de l'écriture. Il y a plein de façons différentes. Par exemple, s'il s'agit d'une œuvre plutôt qui tourne autour de la chanson, on va peut-être chercher à comparer l'inspiration dans le texte. On va, il y a plein de façons possibles, en fait, en fonction du genre, de se créer une grille de lecture.
Tout à fait. Alors, votre idée de grille est intéressante. Moi, c'est ce que je conseille à mes élèves, c'est de partir sur des critères très simples d'appréhension, quoi. C'est-à-dire, par exemple, l'écriture rythmique. Le tempo, les questions d'orchestration, de timbre, de couleur. Est-ce un orchestre symphonique? Est-ce un chœur?
Lister,
se préparer à l'avance sur son brouillon. Voilà, un petit tableau finalement. Alors je sais bien que c'est un peu scolaire, mais ça permet comme de se rassurer. Ça permet d'avoir un point. Et ensuite, alors là où ça devient formidable, c'est essayer de trouver justement ce qui va relier, parce qu'il y a toujours un lien. Par exemple, imaginons que l'étudiant tombe sur le concerto pour la main gauche de Ravel, sur ce passage en question qu'on vient d'entendre, qui a un côté très orientaliste par moment, et imaginez qu'on mette une musique traditionnelle d'Extrême-Orient, où on retrouve par exemple les mêmes sonorités un peu exotiques et les mêmes modes quant à l'écriture mélodique, par exemple. Ou alors on peut leur mettre un blues, où là on sent bien que Ravel est quand même très influencé par ce qu'il a entendu aux États-Unis au début des années 20. Donc là, il y a une deuxième entrée, par exemple. C'est plutôt la rencontre des musiques populaires et des musiques savantes, finalement. Ravel, qui est un musicien savant, bien sûr, mais qui n'hésite pas à intégrer des éléments autres que sa culture d'origine.
Et pour l'option spécialisation, la liste des œuvres est différente. Vincent Varnier, Susanna Kubik.
Oui,
elle s'articule autour de 4 thématiques. En fait, le principe est relativement simple pour les deux options. Les œuvres imposées focalisent en quelque sorte les thématiques travaillées au cours de l'année. Pour l'option de spécialité, il y a 4 thématiques de réflexion qui sont l'interprétation et l'arrangement avec Germaine Taillefer, la musique et le rythme et le temps autour du Mozart, le timbre et le son pour Debussy et le jazz et l'Orient dans un contexte de la musique, diversité et relativité des cultures. On comprend tout à fait de quoi il s'agit en fait.
Eh bien, je vous propose d'écouter quelques notes de Léolam, Avishai et Cohen au programme de ce bac musique.
Thank you.
Yolam Avishai Cohen au programme de ce bac musique. Et pour bien se préparer à ce bac musique, vous avez l'embarras du choix. Un certain nombre de lycées proposent des cours facultatifs de préparation au bac musique. Ils sont 18 à Paris, si je ne dis pas de bêtises, Vincent Varnier. Mais il y a aussi des conservatoires qui proposent des cours, sans oublier évidemment Internet. Un tas de ressources sont disponibles sur la toile, comme le dossier que vous avez préparé, Susanna Kubik, sur francemusique.fr. Et vous avez aussi rencontré des jeunes élèves.
J'ai rencontré Octave, qui est en terminale S du lycée Racine. Il est pianiste et oboïste. Il a choisi l'option facultative pour garder la musique dans sa vie, même s'il fera médecine l'année prochaine. Pour préparer son bac, Octave a suivi toute cette année les cours facultatifs dans son lycée, mais révise aussi en pratiquant. Il a intégré l'orchestre qui monte les quatre opéras bouffes de Germaine Taillefer au programme du bac cette année.
C'est des cours facultatifs, c'est le mercredi après-midi, ça dure 2 heures. On écoute beaucoup les œuvres, on a les partitions, et on analyse dans le détail la partition, les intentions du compositeur. Pour les opéras Taillefer, en tout cas, il y a l'autre professeur du lycée, Madame Blasi, qui monte le projet de l'opéra. Et donc je participe, ouais, je fais le hautbois, en partenariat avec le lycée Brassens. Il y a aussi un lycée exclusivement de mi-temps, enfin de double cursus. Donc c'est un petit orchestre. Et les chanteurs, c'est pareil, c'est des chanteurs qui viennent à la fois du lycée Racine et du lycée Brassens. Et donc, forcément, ça aide. Et puis, comme ça, je connais très très bien l'œuvre et la partition.
Mais si vous connaissez comme Octave votre programme limitatif sur les bouts des doigts, ce n'est pas tout. Le jour de l'épreuve, vous devrez montrer aussi vos talents de musicien. Explication avec Pascale Hertu, inspectrice pour la musique à l'Académie de Paris.
L'épreuve de l'option facultative, c'est d'abord un oral, hein, il n'y a pas d'écrit du tout. C'est 40 minutes avec 2 parties. La première partie consiste en une analyse comparée. Donc on a un extrait d'une des 3 œuvres travaillées l'année, donc connue, et un autre extrait inconnu du candidat. Le candidat va entendre au moins 2 fois les 2 extraits. Et pendant la diffusion des pièces, il va préparer son commentaire comparé. Et la deuxième partie d'épreuve, donc, dure 10 minutes. Dans ces 10 minutes, le candidat doit interpréter une pièce de son choix. Il doit la présenter au jury.
Si cette épreuve de l'interprétation peut faire peur, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, parce que tous les styles de musique sont les bienvenus et le candidat peut se présenter en soliste ou accompagner des camarades du lycée, à l'instrument, au chant ou même avec une création musicale à l'ordinateur. Le jury n'évalue pas le niveau technique, mais l'investissement et la musicalité du candidat. Myriam Zanuto est professeure relais à l'Orchestre Philharmonique de Radio France et ancienne membre du jury.
On est ravis quand on a des musiciens confirmés, comme l'année dernière, on a commencé le premier jour avec un quatuor de trombone. Et on est aussi ravis quand on a des élèves qui arrivent avec leur petit playback et qui chantent par-dessus. Des gens non musiciens, entre guillemets, c'est-à-dire non pratiquant la musique à l'extérieur, mais qui en réalité sont de vrais musiciens amateurs et qui ont préparé ça sérieusement. Il y a quelques années, on avait eu une élève qui était venue avec son didgeridoo. C'était chouette, enfin, c'était inattendu.
Myriam Zanuto nous parlait donc du choix des élèves, du morceau des élèves à l'épreuve du bac. Et notre Octave, qu'on a rencontré pour ce reportage, a choisi Mozart.
Qu'on va écouter dans un instant. Vincent Varnier, vous êtes le professeur donc au lycée Racine. Qu'est-ce qu'ils vous racontent, vos étudiants, vos élèves? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce que voilà, on en discutait un petit peu en antenne et je trouvais ça très intéressant les réflexions que vous disiez.
C'est assez étonnant, c'est presque paradoxal parce que j'ai une chance incroyable d'avoir ces élèves, ces étudiants, je dirais presque des collègues. La plupart d'entre eux sont des musiciens professionnels ou des grands amateurs effectivement qui feront d'autres études. Mais on travaille beaucoup avec le CRR de Paris, le CNSM de Paris aussi. Donc voilà, d'évoluer dans ce milieu, je remercierai jamais assez tous ces étudiants qui m'ont apporté tellement de joie. Mais malgré leur haut niveau et leur enthousiasme, ils ont quand même le trac de cette épreuve. quand ils préparent.
C'est étonnant, alors que, on va dire que le niveau est là, la connaissance de la musique, la pratique de la musique est là.
Ce sont des gens qui ont l'habitude de la scène, déjà, pour la plupart d'entre eux, hein, qui sont déjà un peu dans le métier, hein, du concertiste. Un jour, vous les recevrez peut-être dans votre matinale, parce que je crois qu'il y a de très, très grands talents à venir qu'on aura plaisir à découvrir dans quelques années. Mais ça reste quand même leur deuxième épreuve orale. Ils ont passé le bac français l'année dernière. Donc, ils se retrouvent pour la deuxième fois face à un jury. Et malgré un grand niveau instrumental et même théorique, de pratique musicale, de connaissance de l'histoire de la musique et de l'analyse, eh ben ils ont peur. Donc je reçois des textos parfois paniqués à un jour ou deux jours ou une semaine ou même ici hier encore à un mois de l'épreuve. Monsieur, c'est dur le bac facultatif?
Et qu'est-ce que vous répondez?
Mais non mon enfant, travaille, sois confiant et confiance au lecteur.
8h37, on va entendre un extrait du Divertimento en ré majeur de Mozart par le Quatuor Van Kuyk.
Thank you.
un extrait de la Grande Partita de Mozart, et non pas le Divertimento comme annoncé, mais cela dit, les deux œuvres sont au menu de ce programme limitatif du bac musique. Plein de sources disponibles pour en apprendre plus sur ces œuvres, Vincent Varnier, Susanna Kubik. Il y a des archives, notamment, on parlait de cette Grande Partita, une vidéo que vous avez enregistrée avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France l'an dernier,
oui,
Vincent Varnier.
Oui, c'était une opération passionnante autour de Mozart, d'ailleurs, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. C'était un concert, donc nous avions de nombreux lycéens et leurs professeurs qui étaient venus dans notre auditorium. Et l'Orchestre Philharmonique de Radio France était décliné dans son ensemble à cordes pour le divertimento, option facultative, et pour l'option spécialité, on avait les 13 instruments pour la sérénade Grand Partita. Et c'est ainsi qu'on a donné aussi des pistes d'écoute, des pistes d'analyse, en faisant des petits modules aussi en présence du public, autour, par exemple, de certains aspects de l'œuvre, formelle, d'écriture, d'orchestration, d'instruments étranges, comme les fameux cordes basset qu'on entendait
à l'instant. Oui.
À l'instant. Voilà, donc ça a été un outil très apprécié, je crois, hein, des lycéens. J'ai eu beaucoup de bons retours là-dessus.
En effet, continue à l'être parce qu'il est toujours disponible et mis en valeur dans notre dossier spécial autour du bac musique
qu'on trouve sur francemusique.fr. Et effectivement, il y a d'autres, d'où l'importance de ces archives. Effectivement, il y a donc ce dossier multimédia qui est disponible en ligne, avec aussi beaucoup d'émissions de France Musique qui ont été réalisées autour d'œuvres, de compositeurs. Je pense à Musicopolis, notamment consacré à Germaine Taillefer avec Anne-Charlotte Raymond.
Il y a toute une série Musicopolis autour de Germaine Taillefer, et il y a aussi par exemple une série d'émissions autour de la musique française pendant la Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, qui peut être aussi intéressante pour compléter
le contexte. C'est pour se plonger,
comme
vous le disiez peut-être, Vincent Varnier, il faut, la simple écoute ne suffit pas.
Non. Prenons l'exemple toujours du concerto pour la main gauche de Ravel. Nous sommes en 1932. On peut lire cette œuvre de plein de manières, mais il y a aussi le contexte historique. Hein, Ravel qui s'inquiète peut-être de ce monde qui commence à aller très mal et qui va aller vers une apocalypse qui est clairement sentie dans cette œuvre. Hein. C'est une œuvre sombre, c'est un diamant noir, ce concerto pour la main gauche. Mais on peut aussi le voir sous l'angle de l'écriture, incroyable pour la seule main gauche d'un pianiste. Hein, d'un pianiste d'ailleurs qui avait perdu sa main droite. Donc la Première Guerre mondiale, pianiste Paul Wittgenstein. Je le disais tout à l'heure, Ravel aussi à la rencontre du jazz. Vous voyez, donc c'est intéressant aussi de partir de l'œuvre et de rayonner, si vous voulez, en mettant d'autres œuvres en rapport. Le concerto en sol qui a été écrit en même temps par Ravel. Bien sûr, on étudie le concerto pour la main gauche qui est au programme, mais ça veut dire connaissez aussi le concerto en sol, bien entendu. Il y a aussi le non-dit dans les
épreuves. Mais où est la limite, finalement, Vincent
Varnier? Il n'y a pas de limite. C'est ça qui est merveilleux dans notre métier, c'est que vous pouvez toujours, toujours évoluer. Et d'ailleurs, d'une année à l'autre, quand les deux œuvres, ou les œuvres restent au programme, eh bien, mon cours n'est jamais pareil. Parce que ça vous ouvre toujours de nouvelles perspectives et ça vous oblige à chercher et finalement à être vous aussi en tant que prof un éternel étudiant.
J'aimerais qu'on parle de Germaine Taillefer. C'est pas courant, c'est pas souvent qu'on a une compositrice au programme du bac musique. Je pense que la dernière, c'était il y a 10 ans.
Oui, c'est vrai. C'était une compositrice chinoise, Shu Yi, dans une œuvre qui s'appelait Le plein du vide, qui était une œuvre, on va dire, d'esthétique spectrale, avec beaucoup d'éléments électro-acoustiques, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est vrai que c'est assez rare, évidemment. Pourquoi pas un jour une œuvre de Clara Schumann ou de Cécile Chaminin, de Betsy Jolas, et que sais-je.
On va écouter une pièce ici pour piano de Germaine Taillefer, pour un petit peu se plonger dans l'univers de cette compositrice peu connue, finalement. Voici la Pastorale Inca.
Thank you.
Quelques notes de cette pastorale Inca de Germaine Taillefer. Germaine Taillefer, compositrice au programme du Bac Musique cette année. Susanna Kubik, vous nous avez ramené quelques derniers conseils pour se préparer au mieux au Bac Musique que vous avez recueilli auprès de...
Oui, en effet, c'est Pascal Hertu, l'inspectrice de l'Académie de Paris, qui a proposé de prodiguer quelques derniers conseils dans la dernière ligne droite dans la préparation des épreuves.
Ce qui me paraît important, c'est qu'ils aient fait un vrai point sur le choix de leur morceau et qu'ils n'attendent pas le dernier moment pour le préparer. Deuxième conseil, les inviter à réécouter les pièces au programme avec une vraie écoute concentrée, analytique, plutôt que d'apprendre par cœur des pages de documentation pour vraiment s'imprégner du matériau et que ça fasse sens. Et le troisième conseil, ça serait qu'ils se préparent dans les semaines qui précèdent avec la montre. En même temps qu'ils font cet exercice, ils s'enregistrent pour qu'ils réécoutent la façon dont ils se sont exprimés. Et puis j'aurais une quatrième préconisation, une salle d'examen, il y a un ordinateur à partir duquel le jury diffuse les extraits musicaux. Il y a un piano pour accompagner. Pour le reste, ils amènent leur ordinateur portable, leur clé USB. Leur préparation doit être calée. Je suis violoniste, j'ai accordé mon violon avant. Il faut qu'ils soient prêts à faire feu, si je puis dire ça comme ça. Et dernier petit point, dans les jurys, on s'arrange pour qu'il y ait des bons pianistes dans le cas où un candidat vient, il n'a pas d'accompagnateur. C'est toujours mieux d'avoir son accompagnateur. Et il ne s'agit pas d'avoir la grand-mère qui va accompagner son petit-fils. L'accompagnateur doit être un jeune de même âge.
Parce qu'effectivement, les élèves sont amenés à jouer aussi. Vincent Varnier, vous validez ces conseils? Vous avez quelque chose à ajouter?
Tout à fait. C'est très important, cette préparation et le choix du morceau. Alors, le choix du morceau doit être quand même en rapport avec les œuvres du programme d'histoire de la musique et de culture musicale. Alors, il ne faut pas forcément jouer du Taillefer, pas forcément jouer du Mozart, pas forcément jouer du Ravel. Mais il faut quand même essayer de trouver un lien. Vous voyez, d'époque par exemple, hein, bon, le style classique viennois, Haydn, Beethoven, Schubert ira très bien avec
Mozart. On reste
Mozart
dans le répertoire classique.
Pour, si par exemple, ou si vous voulez vous mettre en rapport avec jazz et Orient, si vous avez un bon improvisateur de jazz, il peut tout à fait faire une reprise d'un des thèmes qui sont au programme. Vous voyez, c'est très très ouvert, mais il faut quand même trouver un lien. Voilà, et ça sera apprécié. Et puis effectivement, ça c'est important, hein, pour les accompagnateurs. Voilà, un chanteur qui a besoin d'un piano, eh bien il faut qu'il le prévoie à l'avance. Bon, si vraiment il est en panne d'accompagnateur, en général, il y a toujours dans le jury l'une ou l'autre personne qui peut déchiffrer et jouer. Ils ont suffisamment de métier, nos examinateurs.
Vous avez un dernier conseil à donner à ceux qui nous écoutent, Vincent Varnier?
Se faire plaisir. Se faire plaisir, c'est une option où vraiment on évalue la sensibilité du candidat. C'est pas une épreuve d'érudition, même s'il y a un programme. Il faut, voilà, on cherche aussi l'émotion quand même, hein, au départ. C'est ça la musique. Hein. Après, bon, bien sûr, il faut commencer à réviser dès maintenant, avoir des notions générales sur les œuvres, et puis surtout les écouter. Comme sont des très belles œuvres, je pense que ça ne doit pas être trop difficile.
Effectivement, on va se faire plaisir encore quelques minutes avec quelques notes de ce divertimento en ré majeur de Mozart.
Thank you.
mouvement allegro du Divertimento en ré majeur, que chez le 136 de Mozart. Ça fait plaisir, ça, de grand matin. On a obéi au conseil de Vincent Varnier et de Susanna Kubik qui étaient avec nous. Restez encore avec nous quelques instants. À 8h53, on retrouve Thierry Samitier. Bonjour Thierry.
Bonjour Saskia. Alors moi je me demande si je suis pas un peu médium, parce qu'en fait ma chronique colle exactement au sujet du jour.
C'est fou, hein. Mais non, mais c'est parce que vous êtes au courant du programme depuis une semaine, Thierry.
Oui, non, mais en fait je me suis rendu compte que c'est pas la première fois. Une fois j'avais fait une chronique sur le signe de Saint-Saëns, c'était une violoncelliste qui était invitée, j'étais pas au courant.
La vie est tout de même bien
faite.
Donc
voilà, c'est étonnant. Alors l'objectif de ma chronique d'aujourd'hui est de mettre l'opéra magistral de Mozart, Così van tutte, à la portée du moins cultivé des radis, au travers d'un résumé simple et sobre, comme seul moi-même peut le faire à la radio en ce moment. Alors l'intrigue se déroule au XVIIIe siècle, dans la baie de Naples. Si vous avez passé vos vacances à la Grande Motte, vous pouvez aisément transposer en rajoutant 3-4 rochers et quelques pizzas 4 fromages. Profondément convaincu de l'infidélité des femmes, le cynique Don Alfonso, là imaginez un boucher charcutier à qui on a coupé la jambe suite à un accident sur la 13, en partant le dimanche à Trouville, c'est-à-dire une personne banale dont la jambe aurait repoussé au cours du printemps 2015. Donc le funeste Don Alfonso provoque ses jeunes amis Fernando et Guglielmo en mettant en doute la constance de leur fiancée. Là, il n'y a même pas à transposer, surveillez simplement les messages Facebook de votre conjoint pendant 15 jours. Pour prouver ce qu'il avance, Alfonso leur propose le plan suivant, annoncer à leur belle leur départ à la guerre, puis revenir sous les traits de soldats prêts à tout pour séduire les fiancés. En termes contemporains, ça reviendrait à dire à votre épouse que vous partez 3 mois en Australie, à créer un faux compte Facebook avec une photo de Brad Pitt et à demander votre femme en ami. Là, vous commencez à lui envoyer des messages coquins. « Oh my God, you are in Paris, I'm an American actor, my name is Brad Pitt, I come in Paris next week. » Au début, votre femme résiste. « Thank you very much, but I'm married. » Et à force de persévérance, Brad finit par y arriver. « Oh my dear Genel, I want you. »« Oh Brad, my pitbull, my husband is dead by a shark in Australia. » »« Mon mari s'est fait bouffer par un requin en Australie, quand est-ce que vous venez visiter ma grotte ?» Et Don Alfonso de conclure, « Così fan tutte. » Elles font tout ainsi, ravies d'avoir prouvé sa théorie. Alors à la fin, votre épouse vous dit « Non, mais je savais que c'était pas Brad Pitt parce qu'il n'aurait jamais envoyé des messages aussi plats. » Et vous retournez avec elle, mais vous avez des doutes. Rien ne sera plus jamais comme avant, comme disait Trier Veller quand Land changeait le filtre à huile de son scooter. Voilà un résumé qui, je l'espère, donnera aux néophytes l'envie de découvrir cet opéra de Mozart, composé à partir d'un livret en italien de Lorenzo da Ponte, créé le 26 janvier 1790 au Burgtheater de Vienne, 2 siècles avant la création de ma page Facebook.
Merci beaucoup Thierry Samitier, on regrette presque que Così fan tutte soit pas au programme du Bac Musique, je suis sûre qu'il y aurait eu une note excellente avec votre explication.
Mais oui, j'en suis certain, parce que c'est avec des petites histoires comme ça qu'on retient les choses.
C'est pas faux.
J'aurais adoré m'avoir comme professeur.
Ah ben voilà, c'est formidable. Merci Thierry Samitier, on vous réécoute sur francemusique.fr. Merci à vous Susanna Kubik, merci à vous merci Vincent Varnier. Merci. Je rappelle que France Musique vous aide à réviser votre Bac Musique sur France Musique. Avec un dossier multimédia comprenant les émissions qui ont déjà été réalisées autour des œuvres au programme, des pistes d'écoute, des guides d'analyse. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux où des vidéos pédagogiques sont mises en ligne et des articles avec un guide de survie du bachelier, tiens, qui est disponible en ligne. Sans oublier cette web radio qui se lancera un petit peu plus tard, ce sera le 29 mai, web radio musique pour réviser. Vincent Varnier, j'annonce, juste avant que nous quittions, ce récital que vous donnerez à Paris, en l'église de Saint-Sulpice, ce sera le 30 avril à 16h. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir ce matin, et puis je vous souhaite une très belle journée.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.